Alors, bonjour à vous tous et bonne fête de la Pentecôte. Le titre du sermon, la Pentecôte, un engagement à la loyauté. La Pentecôte, un engagement à la loyauté. Lorsque nous examinons le jour de la Pentecôte dans un contexte global, nous voyons que ce jour est intimement lié aux relations au sein d'une alliance tout à fait unique, une alliance contractée entre Dieu et l'homme. D'un point de vue historique, ce jour est associé à l'établissement de la première alliance au Mont Sinaï entre Dieu et le peuple d'Israël. Et ce, exactement 7 semaines après leur sortie d'Égypte. Ensuite, bien des siècles plus tard, au cours de la première Pentecôte, de l'an 31 de notre ère, après la Pâque ultime de Jésus-Christ, les véritables disciples de Christ, les prémices du peuple de Dieu à travers l'histoire, se sont vus offrir, tout comme les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament, de meilleures promesses contenues dans la Nouvelle Alliance. Alors, la Nouvelle Alliance donnait accès au Saint-Esprit de Dieu, à la puissance de Dieu, donnait un accès au Dieu suprême de l'univers, et à la merveilleuse promesse de vivre éternellement dans la famille de Dieu. Pour le reste de l'humanité que Dieu n'a pas encore appelée maintenant, qu'il n'a pas appelée non plus au cours de l'histoire, ils se verront offrir l'accès à cette nouvelle alliance lors de la résurrection du grand trône blanc, la dernière fête du magistral plan de Dieu. Maintenant, lorsque nous scrutons la relation entre l'ancien Israël et Dieu, nous y trouvons un mélange de loyauté et de trahison. Dieu a toujours été fidèle, loyal envers son alliance, tandis que la traîtrise a toujours été l'exclusivité du cœur tortueux des êtres humains, toutes nations confondues. À maintes reprises, les prophètes réprimandèrent les tribus d'Israël et de Juda à cause des trahisons dont ils se rendirent coupables à l'encontre de l'alliance contractée avec le Dieu suprême. Et Dieu et les prophètes comparèrent la nation à une femme infidèle. Leur choix, leur cheminement et leur déboire, ainsi que les avertissements qu'ils ont reçus, sont consignés dans les Écritures pour que nous puissions en tirer des leçons aujourd'hui. Et on peut voir qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet-là dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il nous rappelle que justement, ce qui a été écrit dans les Écritures, c'est pour nous servir d'enseignement. 1 Corinthiens 10, les versets 11 et 12. Au début du chapitre 10, pour ceux qui ne savent pas, Dieu révèle qui était le Dieu de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul nous dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ que les Israélites suivaient au désert. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites, elles ont été conservées pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors Paul, même à son époque, pensait qu'il était rendu à la fin des siècles. Mais voyez-vous, on voit aujourd'hui les événements qui nous démontrent que nous sommes vraiment à la fin des siècles. Nous approchons de la période où toute l'humanité pourrait se détruire, si ce n'était de l'intervention de Dieu. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ceux et celles d'entre nous qui ne tirent pas des leçons de l'histoire de nos ancêtres risquent de commettre les mêmes erreurs et de souffrir les mêmes conséquences, tout en s'imaginant être debout sur la bonne voie. C'est ce qui peut nous arriver. Parce que n'oubliez pas, Paul écrivait aux chrétiens de la fin des temps. Lorsque les Israélites arrivèrent au mont Sinaï, après des semaines de voyage, Moïse gravit la montagne pour y rencontrer le Créateur, le Christ. Puis redescendit pour annoncer aux Israélites que Dieu les conviait à nouer une relation unique, une alliance avec lui, avec le Créateur de l'univers. Allons à Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. C'est important qu'on réalise à quel point c'était une alliance vraiment spéciale. Exode, chapitre 19, nous allons lire les versets 3 à 6. Alors Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. » La même promesse que Dieu promet à ceux qui sont fidèles à la fin des temps, qui vont avoir un esprit philadelphien, de nous porter sur les ailes du grand aigle. Mais ça a l'air que ça se peut qu'on marche aussi. Pour nous emmener dans un lieu de sécurité où nous aurons un enseignement intensif. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Et c'est le même cas pour chacun d'entre nous ici dans cette salle. Entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et c'est les paroles qui ont été répétées dans Apocalypse, comme vous le savez. Après les avoir personnellement sortis de l'enfer de l'esclavage, Dieu désirait faire des Israélites son peuple choisi pour être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Une nation sainte, ça veut dire une nation à part, à la condition qu'il reste fidèle au terme de son alliance. Continuons, versets 7 et 8. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Alors, de chacune des tribus, il y avait des anciens qui étaient là pour s'occuper des charges qu'ils avaient. Moïse les fit appeler. Et il mit devant eux toutes ses paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, le peuple s'est empressé d'accepter l'offre de Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Ils ont accepté l'offre en disant, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Quand Dieu nous sort de l'Égypte, est-ce que nous sommes prêts à faire cette promesse-là à Dieu? Dans le fond, c'est la promesse que nous avons faite à notre baptême. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et c'est le symbolisme aussi de cette question de fidélité envers l'alliance que nous avons à faire. Toutefois, l'histoire de l'ancien Israël nous révèle l'incapacité d'Israël à tenir ses promesses et à rester fidèle à ses engagements de l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis plus tard qu'une partie de son peuple d'Israël, le royaume du Nord en Samarie, soit déporté par les Assyriens. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Osée expliqua qu'Israël, les 10 tribus du Nord, avaient commis l'adultère et s'étaient souillés. Nous allons nous reporter à Osée au chapitre 5 pour voir qu'est-ce que le prophète annonçait à ces gens-là. Il ne faut jamais oublier le principe de la dualité, sachant aussi que nous sommes des descendants modernes d'Israël. Nous sommes aussi Israël spirituel de Dieu. Osée 5, verset 3. Dieu dit ici, « Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Les descendants modernes d'Éphraïm et d'Israël ne sont pas cachés aux yeux de Dieu, et leurs œuvres sont abominables et idolâtres. » C'est ce que le prophète ici nous annonce. Verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de prostitution qui est parmi nos nations aujourd'hui a fait perdre le bon sens. Ils ne connaissent plus le peu qu'ils avaient des lois de Dieu. Aux États-Unis, on sait que les lois de Dieu étaient affichées dans les tribunaux à l'entrée. Ils ne sont plus là. C'est même défendu. Ils ne sont plus dans les écoles. Verset 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux, aussi tombera Juda. L'effronterie avec laquelle ils pratiquent le péché manifeste leur insolence et la profonde dépravation de leur cœur. Mais à la fin, l'orgueil et l'arrogance seront la ruine de tout Israël. Verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Dieu retire actuellement ses bénédictions aux descendants modernes d'Israël, à nos nations. Et il amène bientôt la famine de la parole. Verset 7. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Dieu avertit qu'un seul mois suffira pour ruiner les nations modernes d'Israël. Et si on écoute les nouvelles prophétiques à l'Église, on voit que ça prendrait pas vraiment grand-chose pour que tout tombe, tout le système qui est autour de nous, tous les systèmes économiques, tous les systèmes de transactions s'effondrent. Chapitre suivant, Osée 6, verset 4. « Que ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » C'est pas grand-chose, votre piété, c'est rien. C'est une vapeur. C'est ça que Dieu reproche à nos gens. Vous avez une piété du matin, mais c'est effacé. Aussitôt qu'apparaît une épreuve, le soleil ou n'importe quoi. Vous ne persistez pas dans la piété. Verset 5, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Et ensuite, Dieu ici avertit qu'il va punir, mais verset 6, il nous dit, voici, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, de rechercher la connaissance de Dieu et de la mettre en pratique. C'est ça que Dieu prend plaisir. Verset 7. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Verset 10. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Et lorsque vous regardez qu'est-ce qui se passe dans nos nations, la façon qu'ils parle du genre, la façon qu'il traite les enfants à naître. C'est des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Un siècle plus tard, dans les années qui précédèrent la captivité à Babylone, le prophète Jérémie délivra un message de Dieu au royaume de Juda au sud. Son accusation fait écho au même thème, l'infidélité envers l'alliance. Infidélité envers l'alliance qu'ils avaient contractée avec le Dieu suprême de l'univers. Vous savez, la tribu de Juda avait été témoin des infamies commises dans le royaume du Nord, en Israël. Et Juda ne s'est pas détourné des mauvaises voies d'Israël. Nous allons voir qu'est-ce que le prophète Jérémie a écrit au chapitre 3. Jérémie, chapitre 3. Nous allons débuter au verset 6. Jérémie 3. Et au verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, et si Josias a été un des derniers bons rois sur Juda, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Alors, on voit qu'à cette époque-là, Israël fêtait une fête qu'on appelle aujourd'hui Noël. Le nom était différent à l'époque, mais c'est la fête de Noël déguisée. Verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Et on va voir un peu plus loin pourquoi Dieu qualifie Juda de perfide. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, c'est des nations sœurs, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. C'est ce qu'on vient de voir au verset 8. Maintenant, on continue. Par sa criante débauche, regardez la puissance de ces mots-là. Par sa criante débauche, Israël a souillé le pays du Nord. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Alors, ces dieux étaient devenus la pierre et du bois. Les veaux, exemple, que Jéroboam avait installés en Israël. Verset 10. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Et finalement, le verset 11. L'Éternel me dit, il parle ici à Jérémie, mais le message est aussi pour nous aujourd'hui. L'infidèle Israël paraît innocent en comparaison de la perfide Juda. Vous savez, même si le temple était toujours debout et que la prêtrise existait, disons, toujours à Jérusalem, le royaume de Juda était très corrompu. Jérémie condamne les Juifs plus que les Israélites du Nord parce qu'ils auraient dû devenir sages, fidèles, revenir à Dieu en voyant les calamités qui avaient frappé les tribus du Nord, qui s'était détourné de l'alliance de Dieu. Et Juda faisait exactement la même chose. Le peuple de Juda n'a pas retenu les leçons de l'histoire d'Israël et n'est pas revenu aux paroles de l'alliance avec leur Créateur. Les 10 paroles, les commandements. Leur infidélité les rendait pires que les 10 tribus et par leur orgueil, la principale cause d'ailleurs de leur condamnation, ils se vantaient d'être parfaits alors qu'ils étaient décadents. Telles étaient les raisons pour lesquelles Dieu dit qu'Israël, bien que perfide, était encore plus juste que sa sœur Juda. Mais voyez quand même le verset 20, Jérémie 3, verset 20. Mais comme une femme est infidèle à son amant, « ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. » Alors les deux maisons, Israël et Juda, avaient été infidèles envers l'alliance avec Dieu. Et c'est une alliance qui avait été contractée avec serment. Alors, cette traîtrise au sein de l'alliance conduisit d'abord Israël en captivité, et plus tard, ce fut le tour de Juda qui fut emmené à Babylone. Cependant, après 70 ans d'exil à Babylone, un reste de Juda, guidé par Zorobabel et Josué, pas le même Josué qui a succédé à Moïse, un autre Josué, fut autorisé, Juda fut autorisé sous la direction de ces deux hommes, à revenir et à reconstruire le temple à Jérusalem. Alors qu'Israël, les tribus du Nord, ne sont jamais revenus en Palestine. Ils ont émigré partout en Europe. Alors, quelques dizaines d'années après ce retour à Jérusalem, Esdras quitta Babylone et vient s'établir lui aussi à Jérusalem. Plus tard, il fut rejoint par Néhémie, qui avait été nouvellement désigné comme gouverneur. Ces deux personnages, Esdras et Néhémie, cherchèrent à rétablir une bonne relation entre Dieu et la nation de Juda, dans le cadre de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Le côté encourageant à cette époque-là, c'est que le temple fut reconstruit après des décennies d'abandon. Le sacerdoce aussi fut rétabli. Le peuple n'adorait plus comme avant la captivité les idoles dédiées à Baal, à Moloch et à la reine du ciel, qui était soit Ishtar, une déesse assyrienne, ou Astarté, la déesse babylonienne, remplacée par Marie dans la religion catholique. Alors ces gens-là n'adoraient plus ces fausses déesses, ces faux dieux-là. Néanmoins, comme en témoigne le livre d'Esdras, même ce reste ne resta pas longtemps fidèle à l'Alliance, et la nation s'est appauvrie. Beaucoup des Juifs pensaient être des gens fidèles, qui méritaient un meilleur sort et que Dieu ne leur octroyait pas ce dont ils avaient besoin. Selon leur perception, Dieu n'avait pas été fidèle dans la réalisation de ses promesses. Cette façon de raisonner était évidemment complètement erronée. Et le livre de Malachie montre 7 erreurs de raisonnement de la nation de Juda. À la fin de cette tranche de l'histoire, juste avant le début, si on veut, du Nouveau Testament. Et du coup, le livre de Malachie contient de nombreuses leçons qui nous intéressent ou qui devraient nous interpeller. Comme le montre le prophète Malachie, la fidélité d'Israël à l'Alliance aurait dû être matérialisée par des actes. Ils n'ont pas tout simplement justifié par une religion de façade. Le livre de Malachie, comme on va le voir, contient cette fois l'expression « en quoi, ceci ou cela », adressée sur un ton de reproche à Dieu, que la nation reprochait des choses à Dieu. Ce qui montre que les gens étaient et sont toujours aveugles à ce que Dieu voit concernant l'être humain. Alors, nous allons examiner ces 7 expressions en quoi. Alors, le prophète montre la fidélité de Dieu et comment le peuple, lui, n'a pas respecté sa parole. Il s'obstinait à se justifier, à s'inventer des excuses, comme nous pourrions être tentés de le faire parfois. Alors, si vous voulez bien, nous allons tourner à Malachie au chapitre 1. Malachie, chapitre 1. Nous allons commencer au tout début du livre. Nous allons lire les versets 1 et 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc, c'est un message que Dieu a donné à Malachie pour Israël. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Verset 2. Ésaïe, n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Vous savez, le peuple, les Juifs, et en particulier ici, allaient jusqu'à remettre en doute l'amour que Dieu leur témoignait en répliquant « En quoi nous as-tu aimé? C'est le premier en quoi que nous allons voir. Le peuple incrédule ignorait délibérément l'évidence de l'amour de Dieu à l'égard du peuple qu'il s'était choisi plusieurs siècles auparavant. Là, il ne restait qu'une tribu de ce peuple-là, mais Dieu prenait encore soin d'eux, mais il ne le voyait pas. Dieu avait choisi Jacob plutôt qu'Ésaü, bien qu'ils fussent deux frères. Dieu était libre de choisir l'un ou l'autre. Et la moindre des choses aurait dû être d'en prendre conscience pour les Juifs et d'être reconnaissant. La même chose pour nous. Dieu est libre de choisir qui il veut. Et sommes-nous reconnaissants d'avoir été appelés? Si nous n'apprécions pas la valeur de notre appel et l'opportunité d'établir une relation spéciale avec Dieu, parce que c'est ça l'alliance, c'est d'avoir une relation tout à fait spéciale avec Dieu, nous finirons par les négliger, négliger notre appel, négliger cette relation spéciale et ne plus apprécier, comme c'est marqué dans le Nouveau Testament, cette perle de grand prix. Alors, une soumission qui n'est pas basée sur l'amour divin ne sera que limitée, temporaire et superficielle, comme celle avec laquelle le peuple de la première alliance, les Israélites, entretinrent avec Dieu. Malachie 1, versets 6 et 7 contient les deux en quoi suivants, qui montrent le non-respect de la nation juive, revenue de la captivité. N'oublions pas que Dieu les avait ramenés de la captivité. Malachie 1, versets 6 et 7. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça fait normal et un fils doit honorer son père comme c'est décrit dans les commandements. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, il s'adresse aussi en particulier à un groupe parmi le peuple des Juifs. À vous, sacrificateurs. À vous, tous ces ministres des différentes églises dans le monde qui enseignent. Qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et on enseigne dans les églises chrétiennes qu'on peut manger de tout. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Alors, tous ceux qui composaient l'auditoire de Malachie aurait dû être d'accord sur ce point. Un père voit à l'honneur et un maître mérite le respect. Soit, comme on vient de le voir, Malachie déclare que les sacrificateurs de Dieu méprisaient son nom en offrant des aliments impurs ou du pain souillé, selon certaines versions, sur son autel. Les gens n'avaient pas la même perception que Malachie qui les avertissait. Parce qu'après leur retour, ils étaient devenus très méticuleux sur l'utilisation du nom de Dieu. Contrairement à ce qu'ils faisaient auparavant, les Juifs évitaient même de prononcer YHWH, Yahvé, comme on le prononce, ou on ne sait pas exactement. Mais leur tradition voulait que seul le souverain sacrificateur fût autorisé à prononcer une fois par an le nom YHWH lors du jour des expiations. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que personne n'est absolument certain de connaître la prononciation exacte de ce nom, parce qu'il ne contient aucune voyelle. Nous, pour parler de Yahvé, si on regarde certaines Bibles, ils vont nous ajouter le A et le E ou le E. Ça nous permet d'avoir une prononciation, mais on n'est pas certain que c'est la bonne prononciation. Mais eux ne prononçaient plus le nom de Dieu. Alors, en dépit de toutes ces prétendues nouvelles marques de respect extérieur, les dirigeants religieux dédaignaient le nom de leur Créateur par leurs actes, par leurs gestes. Comme le démontre Malachie, Vos actions parlent plus fort que nos paroles. Et vous le savez quand vous avez des enfants. Vos actions parlent plus fort que vos paroles. Et Dieu voit exactement la même chose. On est ses enfants. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit nos gestes versus nos paroles. Comme le démontre les versets 8 et 9, le prophète explique comment les sacrificateurs souillaient l'autel de Dieu. Nous allons lire les versets 8 et 9. Il dit, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? » Alors, il présentait des offrandes d'animaux blessés ou malades pour être offerts. Ces animaux-là auraient dû être éliminés du cheptel, mais ils étaient brûlés sur l'autel de Dieu, tandis que les bêtes saines étaient conservées à des fins personnelles. Alors, Malachi leur dit, « Interrogez-vous sur la réaction du gouverneur si vous lui donniez des animaux infirmes. Un tel outrage aurait mal passé. » À juste titre. Et ça a été considéré vraiment comme une insulte. Lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, on ne va pas offrir quelque chose de brisé, de défectueux. Vous lui offrez, par exemple, un cadeau à un enfant, si vous lui donnez un jouet qui est cassé, il n'a aucune utilité. Malachi 1 et le verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Alors ici, par la bouche de Malachi, Dieu leur fit dire que ça leur a été mieux de fermer les portes du temple, d'éteindre le feu, plutôt que de présenter des offrandes méprisables. C'est ce qu'il leur dit. Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Ici, dans le fond, lorsqu'on lit ce verset-là, on fait un saut dans le temps, dans le futur. Dieu inspira Malachi de prédire qu'il y aurait une époque au cours de laquelle des gens de toutes les nations auraient du respect pour le nom de Dieu, particulièrement en débutant par le millénium. Mais cette prophétie avait aussi un rapport direct avec la future Église de Dieu du Nouveau Testament, qui serait formé d'individus issus de toutes les nations qui offriraient des prières et des actions de grâce à Dieu, les cantiques lorsqu'on chante à l'assemblée. Malachi, verset 12 à 14, ici, il va nous expliquer que Dieu s'attend à plus de respect et de gratitude de notre part. Et comme ça nous a été expliqué il n'y a pas si longtemps, on devrait commencer nos prières avec beaucoup de remerciements, de gratitude. Versets 12 à 14. « Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. » Vous allez même jusqu'à voiler le bétail de quelqu'un d'autre pour l'offrir à Dieu. Quelle honte! Et ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Ça ne peut pas être plus clair. « Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Mon nom est redoutable parmi les nations. Alors, Malachie va poursuivre en décrivant un autre problème très sérieux. Il va parler ici des familles brisées par le divorce, tout comme c'est devenu absolument courant à notre époque. Et cela nous conduit au quatrième « en quoi ». Dans Malachie, Malachie 2, verset 13 à 16. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. Et on va voir pourquoi Malachie écrit cela ici. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Il a été fidèle. C'est ici, il s'agit d'Abraham. Un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Même dans notre esprit, il nous dit de ne pas être infidèle à la femme de notre jeunesse. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Matthieu 5, verset 28, que vous connaissez? Verset 16. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. » Prenez donc garde en votre esprit, le répète, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il ne faut pas être infidèle en pensée. C'est ce qui est révélé dans Matthieu, chapitre 5, verset 28 et les suivants. Vous savez, lorsque Dieu créa le genre humain à sa propre image, il établit le concept divin basé sur la famille comme étant l'élément fondamental d'une société stable et solide, ce qui est perdu aujourd'hui. Une société stable ne peut s'édifier que sur des familles qui s'engagent à rester fidèles et qui ne sont pas déchirées par l'adultère. Cet adultère qui amène des pleurs et des gémissements sur l'autel de Dieu pour les femmes et les enfants qui doivent subir ces choses-là, ou si c'est la femme qui quitte pour l'homme aussi, qui peut aussi avoir ses pleurs. Alors, les livres d'Esdras et de Néhémie nous apprennent que le royaume de Juda, après l'exil, connaissait de sérieux problèmes de relations familiales. Parmi ces derniers problèmes figuraient les mariages conclus avec les peuples d'alentour, qui étaient devenus si courants que l'identité même du peuple de Dieu fut mise en péril. Vous pouvez garder votre place ici dans Malachie, parce que nous allons y revenir, mais nous allons aller dans quelques instants dans Néhémie au chapitre 13. Néhémie, chapitre 13, le dernier chapitre du livre de Néhémie. Nous allons lire les versets 23 à 26. Alors Néhémie écrit ou dit aux Juifs à cette époque-là, « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. » Et c'est aussi ce que Malachie rapprochait aux Juifs. De tels mariages ne pouvaient qu'éloigner le peuple de Dieu d'un culte pur. Il entraînait dans une religion hybride, faite d'un mélange de pratiques païennes et d'instructions divines, et tranquillement, les instructions divines finissent par disparaître. C'est ça. Un mélange de vrai et de faux, de bien et de mal. La Bible dit à ceux qui considèrent avec complaisance le divorce de mettre fin à cette trahison. Le mariage est une alliance sacrée. Et Dieu lui-même est témoin de cette alliance. Un autre point maintenant, Malachie déclare que le peuple avait lassé Dieu par ses propos. Cela nous conduit au cinquième en quoi dans Malachie 2 et au verset 17. Nous allons retourner dans Malachie 2 et au verset 17. Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Parce que les hommes agissent mal. Est-ce qu'on est en droit de dire où est le Dieu de la justice? Alors, en constatant que les méchants prospéraient, certains commencèrent à se poser des questions, à douter de l'existence d'un Dieu équitable, comme les gens de notre société doutent d'un Dieu compatissant, miséricordieux lorsqu'ils voient toute la souffrance, ne comprenant pas que Dieu a donné à l'être humain le libre arbitre, ce qui amène le fait de choisir entre le bien et le mal et les conséquences qui vont avec. Alors, il était évident que certaines nations païennes étaient prospères autour de Juda, tandis que les réchappés qui avaient été ramenés s'enlisaient dans la pauvreté. Certes, quelques personnes de Juda avaient réussi financièrement en faisant des affaires malhonnêtes et en exploitant des gens sans défense. Était-ce un motif de croire que Dieu ne le voyait pas ou qu'il était indifférent? Non, pas du tout. En fait, Dieu testait la fidélité du peuple de l'Alliance ou du reste du peuple de son Alliance. Pour les autres, il les avait laissés aller à travers leurs problèmes. Alors, Malachie explique qu'il fallait voir au-delà des apparences, car le Dieu d'Israël avait envoyé un messager qui préparerait la voie du Seigneur. Cette prophétie fut partiellement réalisée en la personne de Jean-Baptiste, préparant la voie devant Jésus-Christ. Et plus tard, Jésus-Christ entrerait finalement dans son temple en tant que messager de la Nouvelle Alliance. Le Christ débuta son ministère en l'an 28 de notre ère, en entrant dans le temple peu avant la Pâque, et il a chassé les vendeurs du temple qui y trafiquaient. Vous pourrez lire ce récit-là dans Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. Je vais vous laisser le choix, le plaisir de le lire. Et il a fait aussi la démonstration, le Christ, de sa divine autorité en accomplissant des miracles, comme l'a reconnu Nicodème qui est allé voir de nuit dans Jean 3, versets 1 et 2. Je ne vais pas m'y reporter, mais Nicodème a dit au Christ, « On sait que tu viens de Dieu par les miracles que tu accomplis. Un homme ne peut accomplir ces miracles-là s'il ne vient de Dieu. » Alors, les événements auxquels Malachie faisait allusion allaient au-delà de la première venue du Christ aussi. Il se reportait aussi à l'époque de son second avènement dans la gloire et la puissance. Le peuple de la Nouvelle Alliance doit vivre avec foi, avec la foi de Christ en eux et regarder vers l'avenir. Malachie dit que Dieu est totalement fidèle, à l'inverse de Juda qui à maintes reprises fut en faute contre Dieu et contre l'Alliance. Dieu ne change pas. On peut avoir l'assurance qu'il tient toujours ses promesses. Il y a seulement lorsqu'on parle de Dieu qu'on peut dire toujours. Malachie encouragea la nation à se tourner à nouveau vers Dieu et à récolter les bénédictions qu'il était disposé à leur donner, à leur accorder. Alors, les auditeurs de Malachie demandèrent « En quoi devons-nous revenir à Dieu? » En quoi devons-nous revenir à Dieu? La réponse donnée par Malachie fut simple, mais cinglante. Cessez de voler votre Créateur. Malachie ne se contenta pas d'accuser le peuple d'un simple vol. Il précisa que ce vol était perpétré contre Dieu lui-même. Le vol est une chose grave, c'est un péché, mais oserions-nous voler Dieu? Cela nous conduit au sixième « En quoi » de Malachie. Malachie 3, verset 7 à 10. Malachie 3, verset 7 à 10. Alors ici, Malachie leur donne le conseil. Si vous voulez prospérer, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. On voit que ça vient vraiment de Dieu. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors, comme je vous ai dit, c'est le sixième en quoi. Il leur dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Ou en certaines versions, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, volé? Et Malachie répond pour Dieu, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien entendu, Dieu s'attend aussi à ce que nous remettions de l'ordre dans nos finances et à ne pas dépenser nos ressources inutilement. Mais comment la nation, elle, en arriva-t-elle à voler son Créateur, en négligeant bien sûr d'être fidèle dans le versement des dîmes et des offrandes comme nous l'avons lu? Selon leur raisonnement, les gens s'étaient autorisés à ne plus faire d'efforts d'obéir à Dieu à cause de leurs problèmes financiers personnels. Il est probable qu'ils pensaient que Dieu patienterait jusqu'au moment où leur santé financière serait rétablie, avant que Dieu n'exige d'eux le versement des dîmes et des offrandes pour reconstruire le temple et rétablir le fonctionnement du sacerdoce. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Cette approche est complètement erronée. L'un des principes les plus clairs dans toute la Bible est celui selon lequel personne ne peut réellement progresser en reléguant Dieu au second plan, ou au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième plan. Personne ne peut progresser en reléguant Dieu à la seconde place. Nous dépendons tous des bénédictions divines et de son aide pour satisfaire ou combler nos besoins. Et ça peut qu'il même puisse prendre plaisir à combler nos désirs dans certains cas. Alors, Malachie exhorta le peuple à placer sa foi en Dieu et à lui donner d'abord ce qu'il était en droit de recevoir. Ensuite, Dieu les bénirait et pourvoirait à tous leurs besoins. Versets 11 et 12. Dieu dit, si vous m'obéissez, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. Et on voit aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors que l'Amérique du Nord était un pays de délices, on s'aperçoit que de plus en plus, les choses changent. Bien entendu, Dieu s'attend aussi à ce que nous remettions, comme je vous disais tout à l'heure, de l'ordre dans nos finances et à ne pas dépenser nos ressources sur des futilités ou des frivolités. Vivre selon nos moyens. Et comme l'exemple de la fourmi qui nous est donné dans la Bible, de se ramasser un coussin, des fonds spéciaux, si on veut, pour les temps plus difficiles. Et vous savez, Dieu est profondément intéressé dans tout cela par l'attitude qui pilote nos actions. L'attitude qui pilote nos actions. Nombreux étaient ceux en Juda au 5e siècle avant notre ère qui observaient les commandements divins, mais à contre-cœur. C'est à cause de cette attitude qu'ils se privèrent de beaucoup de bénédictions qu'ils auraient pu recevoir. Au lieu de s'examiner, de changer, ils blâmèrent Dieu, ils s'apitoyèrent sur leur sort. Et nous, est-ce qu'il arrive qu'on s'apitoie sur notre sort? Pour la 7e et dernière fois, nous lisons une variante de l'expression « en quoi » dans Malachie, chapitre 3, les versets 13 à 15. C'est le 7e « en quoi ». Malachie 3, verset 13. « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Voyez l'attitude. Le fait de marcher avec Dieu, considérait ça de marcher avec tristesse. Pourtant, Dieu il a dit dans la Bible qu'il est venu pour nous apporter la joie, la paix. À marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Malachie compare cette attitude négative avec l'attitude de ceux qui vénèrent véritablement Dieu par après, comme on va le voir. Ceux qui ont l'habitude de méditer sur les choses divines et qui en parlent avec d'autres croyants pour s'encourager mutuellement. Et vous savez, lorsqu'on voit le méchant prospérer, moi, ça me fait penser souvent au psaume 73 et au psaume 37. C'est le fun, on peut les retenir comme ça, 37 et 73. On va voir qu'est-ce que Dieu pense au verset 16 à 18 maintenant, comparativement à ce que les gens ont dit par rapport au fait qu'ils trouvent que le méchant prospère. Verset 16. « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui ici à cette fête. « L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a un livre de souvenirs présentement, ou qu'il a écrit des choses aujourd'hui qu'il a vues. C'est incroyable de penser qu'il peut le faire pour tous les gens qui se réunissent pour la fête de la Pentecôte. Dieu a une puissance inégalée. Mais il écrit un livre de souvenirs devant lui. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Qu'il l'écrit, c'est pas indiqué. Mais il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant lui. Et c'est très encourageant. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et le jour que Dieu prépare, c'est un jour de colère. Mais Dieu dit, j'aurai compassion de vous comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez, parfois, la vie est difficile. Mais souvenez-vous de cette belle promesse. On va voir un jour la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors Dieu est attentif à nos propos. Et Malachie termine avec un dernier avertissement, une mise en garde, je dirais. Malachie 4, verset 4. Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Je pourrais tout aussi bien dire, souvenez-vous de l'alliance que Moïse vous a descendue en descendant de la montagne, les 10 commandements qui étaient sur des tables de pierre. Les 10 commandements que Dieu avait prononcés, auxquels j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Alors, il dit de se souvenir de la loi que Dieu donna à Moïse, les 10 commandements qui contiennent les termes de notre alliance avec Dieu. Frères et sœurs, allons-nous retenir la leçon de l'échec d'Israël et de Juda? Les Israélites ont trahi Dieu, alors que Dieu a toujours fait preuve de fidélité constante et d'un amour sans faille et de miséricorde incroyable envers Israël et Juda. Les Israélites ont échoué parce qu'ils n'aimaient pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Ils n'avaient pas envie de lui obéir. Et il y a des gens aujourd'hui qui connaissent la vérité, ils n'ont pas envie d'obéir à Dieu. Mais je vois que vous êtes ici parce que vous voulez obéir à Dieu. Et Dieu a prévu aussi de résoudre ce problème. Il a conçu un plan de rédemption, décrit d'abord par la Pâque et les pains sans levain. Et ensuite, un cœur nouveau est rendu possible grâce au pouvoir du Saint-Esprit, qui a été reçu pour la première fois par un groupe à la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, et que nous recevons à notre baptême. Nous allons voir un dernier verset, dans Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Et au verset 25. Ézéchiel, 36. Et au verset 25. C'est une prophétie pour les temps futurs, mais il y a une partie de cette prophétie-là qui s'est accomplie avec vous. Verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » C'est ce que Dieu a fait lorsque nous avons été immergés dans les eaux du baptême, symbolisant le sang du Christ qui nous a lavés de toutes nos souillures, de tous nos péchés. Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » On a un esprit qui vient en nous, à notre baptême, l'esprit de Dieu, qui est un dépôt de l'esprit de Dieu que nous devons renouveler. Demandez à Dieu de renouveler de jour en jour. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, on a tous un cœur de chair, mais souvent notre cœur est dur avant que Dieu nous convertisse, avant que Dieu nous appelle, avant qu'il nous fasse rendre compte qu'on a besoin de se repentir, de changer, d'accepter le sacrifice de Christ pour nos péchés. Verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà pourquoi Dieu vous rend capable d'observer et de pratiquer ses lois, d'assister au sabbat, à ses fêtes et toutes les autres ordonnances qu'il nous donne qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors, sur ce cœur nouveau, attendri et changé, Dieu a écrit ses lois par la puissance du Saint-Esprit en nous. Si nous avons un cœur qui aime Dieu profondément et qui s'efforce de rester loyal envers son alliance éternelle, nous recevrons le don de la vie éternelle dans la famille divine. Chaque Pentecôte que nous célébrons nous rappelle notre alliance unique avec le Dieu suprême de l'univers, rendu possible par la puissance du Saint-Esprit en nous.